Ça fait presque une dizaine d'années qu'on travaille avec l'école du dimanche, avec un groupe d'enseignants de haut calibre et des enfants aussi merveilleux qu'on apprend à connaître. Et vous savez, on a remarqué quelque chose. Mettons que j'approche un enfant, je vais lui dire « Hey, touche pas à ça ». Il me regarde, il s'en va faire autre chose. Obéissance immédiate. J'approche un autre petit gars, je dis « Hey, touche pas à ça ». Il me regarde, il continue à toucher. Et je dis « Hey, touche pas à ça ». Il me regarde, OK, il s'en va faire autre chose. Obéissance, mais... Tu vois, il y a eu un petit... ça a pris deux reprises. Je vais en voir un autre. Je dis, hey, touche pas à ça. Il me regarde. Continue. Hey, touche pas à ça. Il me regarde. Continue. Là, je reviens un peu, je retourne. Hey, je t'ai dit, touche pas à ça. Va plus loin. Il me regarde, continue. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce matin, on ne verra pas qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça, OK? Ça serait un beau cas, ça serait une belle étude à faire. Comment on intervient comme adulte responsable en autorité, comment on intervient? Mais on ne le verra pas ce matin. Je garde ça peut-être pour une autre fois. Ce qu'on va regarder ce matin, on va regarder l'obéissance. On va regarder l'obéissance. Et on va regarder un texte dans Hébreux 5. Mais avant d'aller dans Hébreux chapitre 5, j'aimerais qu'on puisse aller dans la prière ensemble. Bon Papa du ciel, Seigneur Jésus, toi dont les yeux sont constamment sur ton assemblée à Trois-Rivières, tes yeux sont sur nos cœurs, tu regardes tes enfants, tu les regardes vivre, tu prends plaisir dans ce qui se passe dans leur vie. Quelquefois tu t'inquiètes, quelquefois tu interviens, quelquefois tu es obligé de reprendre, quelquefois tu encourages, c'est comme si ta main était dans le dos, dans notre dos, en train de nous encourager. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es présent dans nos cœurs, tu es présent dans ton assemblée à Trois-Rivières. Je te prie ce matin de mettre ton Saint-Esprit sur l'assemblée ici, sur moi, de la façon dont je te demande de me diriger pour apporter ce texte. Seigneur Jésus, fais-nous du bien ce matin. Descends dans nos cœurs, parle à nos âmes, Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Fais-nous du bien ce matin. On s'attend de toi, Seigneur Jésus. On t'aime, Seigneur Jésus. Et on veut t'obéir, Seigneur Jésus. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. Hébreux, chapitre 5, verset 7. « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. » Verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. J'ai oublié de vous dire que je lisais dans La Semeur. Peut-être vous êtes égarés dans les Louis II. Je lis dans La Semeur. Verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchizédek. Au verset 7, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus a vécu 33 ans sur terre. » Et Jésus était à la fois un homme, 100% un homme, et à la fois Dieu, 100% Dieu, Dieu le Fils. Et dans sa nature humaine, 100% homme, il a été conçu d'une façon un peu particulière. C'était 100% homme. Comprenez que quand Marie a eu cet enfant, il s'est passé quelque chose de particulier. Normalement, une cellule, une première cellule, c'est composé de 46 chromosomes. 23 qui viennent de la mère, puis 23 autres qui viennent du père, puis les deux se connectent ensemble pour former la nouvelle cellule qui va se multiplier. Dans le cas de Jésus, 23 chromosomes de la mère et du père, qui était, dans le fond, Jésus, son père. Il y avait Joseph comme père adoptif, mais son vrai père, c'était Dieu. Et les chromosomes, 23 chromosomes manquants, là, a fallu bien que Dieu s'en occupe pour les mettre là, pour que Jésus soit une personne physique et spirituelle, mais physiquement 100% comme un homme, comme vous et moi en chair et en os. Alors, ces 23 chromosomes-là, c'est Dieu qui s'en est occupé. Mais Jésus était 100% homme, comme vous et moi, et 100% Dieu. Et ça, on le voit à travers, il n'y a pas beaucoup d'événements qui nous parlent de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais il y en a un événement particulier qui nous est rappelé à l'âge de 12 ans. Alors que Jésus, à 12 ans, est dans le temple, et puis là, il va enseigner les docteurs de la loi pendant 3 jours, imaginez. Il est là avec eux, puis il discute, il leur explique, il leur donne des détails. Écoute, il leur enseigne des choses aux docteurs de la loi. C'est particulier. Parce que comprenez bien que Jésus, c'est la parole vivante. La Bible qu'on tient dans nos mains, qu'on dit être la parole de Dieu, Jésus, c'est lui la parole. Alors, quand il lisait, il expliquait les Écritures, c'est comme s'il s'expliquait lui-même. Il se relisait en lisant les Écritures. Jésus-Christ est la parole vivante, incarnée. Et vous rappelez quand Marie et Joseph ont retrouvé Jésus au temple, Jésus leur a donné l'explication, « Ben, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père en parlant de Dieu son Père? » Alors, Jésus, à l'âge de 12 ans, savait qui il était. Il savait qu'il était un homme ou un jeune homme à 12 ans, un jeune garçon à 12 ans, mais il savait en même temps qu'il était Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il voulait qu'il s'occupe des choses de son Père. Ainsi, au verset 7, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ici, on parle de toute la période de la vie de Jésus sur terre. Jésus était un homme de prière, un homme qui était constamment en relation profonde avec son Père. Et on l'a vu quand il a commencé son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait au tout début quand il a eu 30 ans, il a commencé son ministère public? Il s'est retiré dans le désert et il a jeûné pendant 40 jours. Il a pris un temps particulier où il était en relation avec son Père. Et tout au cours de sa vie, ici ce que le texte nous dit, il était avec des grands cris et des larmes. Il a présenté des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que Jésus, dès le début, il savait pourquoi il venait sur la terre. Il savait déjà ce qui allait se passer en tant qu'étant Dieu. Il connaissait déjà ce qui allait se passer à la croix. Et ce texte qu'on a ici, on peut très bien voir que ça s'applique très, très bien à ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané, juste quelques heures avant qu'il aille à la croix. Et regardons ensemble dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. On nous raconte l'histoire, la scène de Jésus au jardin de Gethsémané. À Marc 14, les versets 32. Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Et Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, à ceux qui étaient les trois proches de lui, là, à Pierre, Jean, Jacques, il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. » Jésus était dans un état en tant qu'homme. Jésus était 100% homme. En tant qu'homme, il était envahi de crainte. Il était angoissé. Il était triste à en mourir. Parce que, comme Dieu, il voyait ce qui s'en venait. Il savait ce qui s'en venait. Et un peu plus, dans un autre passage, l'évangile de Luc, on voit un peu la même scène, mais avec un éclairage différent, dans Luc chapitre 22. C'est la même scène, mais avec un peu plus de détails. Au verset 42, Luc 22, 42. Jésus continue dans sa prière et il dit, en priant, en étant angoissé, en ayant cette crainte, en ayant cette tristesse dans l'âme, cette tristesse jusqu'à mourir, il dit au verset 42, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Alors un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Et au verset 44, l'angoisse le saisit. Cette même angoisse continuait. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Jésus était tellement angoissé, tellement de crainte, tellement de tristesse que sa sueur est devenu des gouttes de sang qui tombaient à terre. Imagine Jésus qui voit très bien, il est là dans le jardin de Gethsémané, il sait que les heures qui s'en viennent. En tant que Dieu, il sait très bien les heures qui vont suivre. Il sait très bien que Judas s'en vient, ce ne sera pas long, là. Dans quelques minutes, Judas s'en vient avec le groupe de Romains, l'armée, qui vont venir le saisir et l'emmener en justice pour le condamner. Il sait très bien que lorsque toutes les gens, la foule va être là, devant le jugement romain, là, il sait très bien que la foule va se mettre à crier « Crucifié! Crucifié! » Il le sait, cela. Il sait que les gens ont de la haine envers lui. Il préfère libérer un meurtrier que de libérer Jésus. Il sait très bien, il voit déjà la scène. Il sait qu'il va être humilié. On va le ridiculiser. On va mettre un manteau rouge pour le faire croire qu'il est un roi. On va lui mettre une couronne d'épines. On va lui arracher la barbe. On va lui cracher au visage. Il voit ces choses. Il voit qu'on va le flageller, qu'on va labourer son dos comme si c'était un champ de labourage. C'est incroyable. Il voit ça et il a la crainte, il a l'angoisse, la sueur lui coule comme du sang. Il voit toutes ces choses. Il voit qu'il va être cloué à cette croix, que ses mains, ses pieds vont être cloués, que quelqu'un va arriver avec la lance qui va lui percer le côté. Il est angoissé, puis il demande à son père en priant, « Père, si c'est possible que cette coupe-là, que cette souffrance-là puisse être éloigné. Non, c'est-tu possible, Père? Y a-tu un autre moyen? » Mais Jésus, en tant que Dieu, savait très bien que, depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a grandi, il savait que l'œuvre qu'il allait accomplir, c'est celle-là pour laquelle, au moment où il était là. Il savait que dans quelques heures, il allait affronter tout ça. Puis dans quelques heures, il allait être suspendu à cette croix. Et dans quelques heures, il allait voir son Père jeter les regards sur lui. Et voir Jésus avec le péché tout nos péchés sur ses épaules, les tiens, les miens, tous les péchés de l'humanité sur ses épaules, et allait voir la face de son Père qui allait se détourner de lui. Et Jésus même allait dire, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus voyait tout le scénario. Et il avait une crainte, il avait une souffrance qui était là. Parce que Jésus, en même temps, il était homme. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Donc, toi, si t'es condamné, tu vois tout ça, là. Il y a une crainte qui est là, il y a une angoisse qui est là. C'est-tu possible, Père? C'est-tu possible? C'est-tu possible d'enlever cette coupe-là? Mais non pas ma volonté, mais la tienne, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Je voudrais bien, moi, que passer, si c'est possible d'enlever ça, mais que ta volonté soit faite. Au verset 7, avec de grands cris et des larmes, il a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Et il a été exaucé. Oui, mais il est mort. C'est marqué. Et il a été exaucé. Oui, mais il est mort. Et il a été exaucé. Sa prière a été exaucée. Oui, mais il est mort. La prière de Jésus, c'était pas de demander au Père d'enlever ça. Il dit, si, est-ce que c'est possible? Mais que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. Que sa prière, sa requête à Dieu, c'est que la volonté du Père soit faite. Et Dieu a répondu à sa requête. Dieu a fait selon, le Père a fait selon sa volonté. Et la volonté du Père, c'était que Jésus meurt. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'était la volonté du Père. Jésus en tant qu'homme, il avait, c'est-tu possible, mais que ta volonté soit faite. Et il a été exaucé. La requête de Jésus a été exaucée. A été exaucée à cause de quoi? À cause de sa soumission à Dieu. La requête de Jésus a été exaucée à cause de la soumission de Dieu. Sa soumission plutôt à Dieu. Jésus a vu le Père. Et Jésus en tant que fils, Jésus Dieu en tant que fils, était égal au Père. Les deux sont Dieu. Mais Dieu le Père avait une position en autorité sur le Fils. Et le Fils était soumis au Père, était soumis à l'autorité du Père. Et dans sa soumission, Jésus a reconnu jusqu'à la mort. Il dit, Père, je te fais confiance, je m'en remets à toi, que ta volonté soit faite, je reconnais ton autorité sur moi. Aïe, aïe, jusqu'à la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Verset 8. Bien qu'étant Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus, Fils de Dieu, a appris l'obéissance. Mais s'il a appris l'obéissance, comment que Dieu peut apprendre? Dieu connaît toutes choses. Comment que Dieu peut apprendre des choses? Jésus, c'est bien ce que j'ai dans ma traduction ici, dans la traduction des Sommeurs, j'imagine les Louis II, c'est un peu semblable. Jésus a appris l'obéissance. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose que ça? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses? Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ici, il faut comprendre, il faut se mettre dans le contexte, il faut bien comprendre. Jésus est 100% un homme, puis il est également 100% Dieu. Jésus, quand il était tout petit, imagine Jésus à l'âge de... On a vu d'ailleurs des beaux petits âges qui ont, 2 ans et demi, 3 ans. Imagine Jésus à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Jésus est comme ça. Il regarde sa maman. Sa maman lui dit, « Jésus, pas le doigt dans le nez. Hein? Pas le doigt dans le nez. » Puis il enlève son doigt. OK? Il est obéissant. Tout petit. Puis plus tard, un peu, on imagine, là. Plus tard, je ne sais pas, il y a 4 ans, 5 ans, sa mère lui dit, « Jésus, tirais-tu me chercher le panier de pommes, puis tu pourrais en prendre une après. » Alors Jésus, il va chercher le panier de pommes, tout content. Il le dépose, puis il en prend une. Il a obéi à ses parents, à sa mère. Jésus, mettons-le à 16 ans, dans l'atelier avec Joseph, en train de fabriquer un petit soldat romain, on va dire. C'est ça, des soldats, des enfants. Et il est en train de sabler son soldat. Marie dit, « Jésus, viens mettre la table pour le souper. » Jésus, « Maman, je peux-tu finir juste le sablage? Dans 5 minutes, je vais y aller, si tu veux. » Marie, « D'accord, Jésus, en 5 minutes. » Est-ce que Jésus a désobéi? Il y a eu une petite négociation, par exemple. Un petit ajustement, une petite permission, un petit ajustement. Il était en train de sabler, petit sablage final. Il aurait aimé ça voir sa pièce toute finie. Il a demandé l'autorisation. « Je peux-tu 5 minutes? C'est possible? » Peut-être, Marie aurait pu répondre, « Non, c'est tout de suite la table. » Mais, OK, dans ce cas-là, elle dit, « OK, obéissance. » Jésus était obéissant. Il a appris l'obéissance. Et ça, l'apprentissage, c'est comme une fondation d'une maison. Moi, un moment donné, j'ai vu des travaux. Là, ils plantaient dans un champ des piquettes de fer. Une grosse machine, toc, 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 un piquette, un autre, toc, toc. Ils ont fait ça des mois de temps. J'ai dit, mais mon doux, ils plantent des piquettes, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois rien, tu vois juste qu'il y a une machine là, puis ça mène du bruit, puis ça plante des piquettes. À un moment donné, bien, il coule une grande dalle de béton, puis là, ça continue. Mais là, à un moment donné, c'est une grosse construction qui se construit. Quand tu construis une immense construction, ça te prend des fondations avec des piquettes d'acier qui descendent jusqu'au roc pour être assis sur le roc. Si tu fais un building de 100 étages, ça te prend une fondation sur le roc. C'est la même chose avec l'obéissance. L'obéissance, il y a une fondation qui est là. Dès le petit enfant, dès son jeune âge, apprends-lui à obéir. Et puis ça fait une fondation solide. Ensuite, le niveau augmente. Parce que une définition de l'obéissance, c'est la réponse à une exigence. L'obéissance, c'est la réponse à une exigence. Dans notre cas ici, les exigences de Dieu. Donc, si je prends une fondation qui est solide, je vais pouvoir construire dessus. Jésus grandit, il est capable d'en prendre plus. Il grandit un peu plus, il est capable, Marie est capable, ou Joseph est capable de donner des directives un peu plus exigeantes, où Dieu lui demande des choses, Dieu son Père lui demande des choses plus exigeantes, il est capable, c'est bâti. L'apprentissage à travers l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc, un lien entre l'obéissance et la souffrance, il y a un lien entre les deux. Quand tu obéis, il y a une souffrance qui est là. Jésus est un homme qui a obéi toute sa vie jusqu'à la mort et l'apprentissage s'est fait à travers la souffrance. Et ça, on le voit à travers, justement, on parlait tout à l'heure de la famille de Jésus. Jésus avec Marie et Joseph, mais Jésus avait des frères. Imagine, Jésus a des frères. Jésus, c'est le parfait. Il est parfait. Aucun défaut, aucun péché, jamais désobéissance. Ses frères qui grandissaient autour de lui, là, Jésus était le plus vieux de la famille, mais il y avait d'autres frères. je ne sais pas quel âge il y avait de différence avec Jésus, mais il était dans le même. Il y avait quelques années de différence. Imagine-toi, là, le parfait, là, les autres autour, là. Jésus ne se fait jamais punir, lui, là. Les autres, c'est toujours la faute des autres. C'est jamais Jésus. C'est jamais lui. C'est toujours moi qui écope. Lui, il est parfait, lui. Et devais-tu le regarder des fois? Il m'énerve, lui, là. Tu sais, l'obéissant, le parfait, il m'énerve. Hey, regardez dans Jean chapitre 7. Une belle illustration des frères de Jésus. Comment que les frères de Jésus aimaient leurs frères. Jean chapitre 7. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il voulait en effet éviter la Judée. Parce que là, dans la Judée, il y avait les autorités juives qui cherchaient à le supprimer ou qui cherchaient à le faire mourir, à le tuer. Cependant, on se rapprochait de la fête des cabanes, la fête juive des cabanes. Ses frères, les frères de Jésus, lui dirent, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde le voit. Ben oui, Jésus, va en Judée, va te faire tuer, vas-y, va en Judée. » Hey, verset 5. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Tu sais, il y avait de la jalousie, là, il y avait le parfait, là, tout le temps le parfait, là. C'est énervant, ça. C'est énervant pour des personnes qui, des pécheurs qui sont pas parfaits, tout le temps le parfait qui est à côté d'eux autres, là. Veux pas, Jésus ne les jugeait pas, il les condamnait pas, mais juste par ce qu'il était, c'était en fatiguant une coupe autour. Juste par qu'est-ce qu'il était. Il n'a rien fait d'exprès. Il était juste lui. Il était juste Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Jésus, à travers ça, ce que je veux démontrer, c'est que Jésus est un homme de souffrance, un homme de douleur. Tu sais, on le voit dans Ésaïe 53. Des fois, on le chante, des fois. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il est méprisé, délaissé. Jésus, un homme de douleur, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Dès son jeune âge, les gens le regardaient, ses frères le regardaient. Puis tout le qu'on vient de voir, les gens voulaient le tuer en Judée. Il était jaloux. Il était dérangeant. Jésus à la croix, on en a parlé tout à l'heure. Quelle souffrance que Jésus avait. Un homme qui a souffert physiquement et spirituellement. Bien, au verset 8, bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Au verset 9, et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. Ici, amené à la perfection, ça pourrait laisser sous-entendre qu'il n'était pas parfait. Mais ça aurait été mieux traduit. Si on prend le texte en grec puis on le traduit mot à mot, on a cette expression-là. Au lieu de amener à la perfection, on a parvenu à son accomplissement. Et donc, ça se lirait, et c'est parce qu'il a été ainsi parvenu à son accomplissement qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ici, c'est plus question de l'œuvre de Christ. Son œuvre a commencé. Et à l'âge de 33 ans, quand Jésus était sur la croix, son œuvre se terminait. Donc, il y a eu comme une progression. L'œuvre n'était pas achevée tant que Jésus n'était pas cloué sur la croix et qu'il a, il a pas dit, à, il a dit à son père, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quand Jésus a dit, tout est accompli, son œuvre était parfaite. L'œuvre achevée, parfaitement accomplie. Et ça, ça a permis pour tous ceux qui lui obéissent, ça a permis le salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchizédek, grand prêtre ou souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizédek. Ici, ce matin, on n'aura pas le temps de voir qui est ce Melchizédek, mais ceux qui aimeraient le fouiller un peu plus, vous pouvez continuer dans Hébreux chapitre 7, 8, 9 et dans Genèse, au début de la Genèse, on en parle. Qui est ce Melchizédek qui est un... je me tente d'en parler, mais... Tu as dit, Melchizédek, c'est, si c'est pas Jésus lui-même, là, c'est tout... En tout cas, on ne rallongera pas là-dessus. Il y aurait lieu à faire une prédication là-dessus. Ce que je veux terminer ce matin, c'est que Jésus a souffert, il a appris la souffrance, et je veux dire, il a appris l'obéissance à travers la souffrance. Mais nous autres, comme chrétiens, il y a souvent trois sources de souffrance chez nous, chez le chrétien. Une des premières sources de souffrance dans nos vies, c'est des fois, c'est suite à nos mauvais choix. On fait un mauvais choix, on désobéit à Dieu, puis on a les conséquences. Alors, on vit de la souffrance. Mais ça, c'est parce qu'on s'est mis dans le pétrin. C'est nous autres qui s'est mis là-dedans, là, à cause de nos mauvais choix et nos désobéissances. Deuxième possibilité de souffrance pour un chrétien, c'est que tu peux être persécuté par le monde et persécuté par Satan qui nous réclame, pour nous cribler. Et dernièrement, la dernière source que j'ai appelée, c'est celle du soldat obéissant. Tu sais, comme croyant, comme chrétien, on est un soldat de Christ. On est au front de bataille. On livre une bataille toute notre vie. Et on a l'armure, on porte l'armure du chrétien. Et c'est lourd des fois. Et il y a une souffrance qui est là. Quand tu portes l'armure de Christ, tu souffres parce que c'est lourd, c'est pas confortable toujours. Et dans la vie chrétienne, on souffre. Dans l'obéissance du chrétien, comme chrétien, comme enfant de Dieu, si on est honnête, on reconnaît qu'à travers notre obéissance, il y a de la souffrance qui est attachée à ça. Pensez, il y a plein d'images qu'on pourrait donner. Plein d'exemples, mais dans nos vies, on souffre pour la bonne cause. Et j'aimerais vous faire ressortir quelques passages de l'apôtre Paul qui parle de la souffrance de celui qui combat le bon combat. Paul, dans Actes, mentionne « C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Dans Romains, il dit « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » Donc, Paul reconnaissait les souffrances à travers sa vie, reconnaissait les souffrances à travers son obéissance, mais en même temps, il voyait la gloire qui allait se révéler en lui. Il voyait la gloire à venir. Dans Corinthiens, il dit « De même, en effet, que les souffrances de Christ surabonde dans notre vie, mais en même temps surabonde le réconfort qu'il nous donne. » Donc, il voyait la souffrance, mais il voyait en même temps le réconfort qui s'en venait, et même en surabondance. Dans Corinthiens, il dit, « Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. » Et dans Timothée, il dit, c'est Paul qui parle à son Timothée, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Et l'apôtre Pierre, à son tour, dit dans 1 Pierre. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Dans notre vie chrétienne de tous les jours, ça arrive que tu es dans t'obéis à Dieu, puis qu'il y a de l'injustice. C'est pas de ta faute, t'as rien fait, t'as absolument rien fait, mais il tombe de quoi sur la tête? Injustement. Tu souffres injustement. C'était pas mérité, mais tu souffres quand même. Par motif de bonne conscience envers Dieu. Et un dernier verset. Au contraire, nous dit Pierre, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Quand, comme chrétien, on obéit à Christ, on souffre dans notre quotidien. Imagine, par exemple, le jeune homme qui vient au Seigneur et puis qui a des pensées homosexuelles. Quel combat, quelle souffrance qu'il y a dans sa vie. Dieu veut le délivrer. Ça, c'est pas, ça va se passer comment, sa délivrance? Ça peut être instantané. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. C'est plus long. Mais il y a de la souffrance qui est là. Prends la jeune fille qui, exemple, qui peut-être pense à un avortement. Elle est chrétienne. Elle pense à ça. C'est de la souffrance dans sa vie. Il y a chacun de nous ici dans cette salle, on a tous, Dieu met, on est tous différents. On vit tous un contexte différent. Et dans chacun, si tu as pris position pour Christ, ou si tu es en réflexion pour donner ta vie à Christ, Christ te demande de l'obéissance. En même temps, il y a un prix, il y a le prix de l'obéissance, il y a un prix pour l'obéissance. Ça coûte quelque chose d'obéir. Et ce prix-là, il y a de la souffrance attachée à ça. Mais heureusement, Christ a souffert avant nous. Et Christ nous a ouvert le chemin. Il nous accompagne dans cette souffrance-là. Et il nous fait briller devant nous la condition à venir. C'est que notre souffrance, elle est limitée. Tu sais, moi j'ai 56 ans, Benoît vient d'avoir 54 ans. On ne sait pas comment il reste de temps, comment il me reste de temps. Personne ne sait dans la salle combien il reste d'années à vivre. Si tu es dans la souffrance, ça peut être physique, ça peut être une souffrance intellectuelle, une souffrance psychologique, ça peut être toutes sortes de souffrances. Tu peux souffrir pour tes enfants, toutes sortes de conditions, mais c'est passager. C'est passager. Jésus t'attend au ciel. Le ciel est ouvert devant toi. Il t'attend et il veut déjà, dans ta condition où tu es, il veut t'encourager. Il ne veut pas que tu te décourages. J'aimerais qu'on puisse terminer dans la prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui as appris l'obéissance à travers la souffrance, toi qui es homme de douleur, habitué à la souffrance, Seigneur Jésus, tu nous as ouvert les portes du ciel. Tu nous attends, Seigneur Jésus, tu nous prépares et tu mets une place pour chacun de tes enfants dans ton royaume céleste, près de toi, Seigneur Jésus. Et tu désires une relation avec toi. Tu désires, Seigneur Jésus, que j'ouvre mon cœur régulièrement devant toi, que je vienne à toi, que je te parle, que je te confie mes angoisses, mes craintes, que je te confie les choses qui se passent dans mon cœur. Tu désires une relation étroite avec toi. Tu désires que je me confie en toi. Tu désires que je te fasse confiance. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Apaise, Seigneur Jésus, les souffrances qui sont là. Donne-moi le courage, Seigneur Jésus, d'affronter, de vivre les choses qui sont autour de moi, de vivre les gens qui se moquent de moi, de vivre ceux qui ricanent dans mon dos, de vivre des conditions difficiles au travail, de vivre des confrères qui me ridiculisent. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre le quotidien. Aide-moi avoir les yeux fixés sur la rémunération à venir. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Toi, tu m'aimes et tu ne m'abandonneras jamais. Tu désires, c'est toi qui désires vivre. Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Prends ma vie, Seigneur Jésus. Je te l'offre, je t'offre ma vie, Seigneur Jésus. Je veux t'obéir et je veux en payer le prix, Seigneur Jésus. Je veux souffrir avec toi pour ta cause, sachant que tu es à côté de moi et que tu ne me laisseras jamais tomber. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.